Bonjour à tous. Les violences conjugales, les enfants, l'inceste, sujet particulièrement difficile. Et en tout cas, on va le traiter avec vous. Édouard Durand, bonjour, merci d'être avec nous. Vous co-présidez la commission qui écoute, qui révèle des travers et des méfaits cachés de notre société, d'une société de plus en plus violente. Alors, à la demande de l'Église, Jean-Marc Sauvé s'était attaqué à la pédophilie dans l'Église. Vous êtes en quelque sorte les héritiers de cette bataille. Et votre cible, ce sont les secrets inavoués d'une société, la nôtre.
Absolument, oui, oui, vous avez raison. D'une part, l'Église de France a décidé de faire la lumière en son sein sur les violences qui étaient commises par des clercs contre les enfants. Et en août 2020, Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, a voulu créer cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants pour que les enfants soient mieux protégés.
Et alors, l'inceste, j'ai l'impression que désormais, il est appelé par son nom, l'inceste. Et ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est que vous mettez des mots sur un phénomène qui a une ampleur insoupçonnée. Et on va s'en rendre compte avec vous. Combien sont concernés par les violences déjà dans les couples?
Alors, nous savons, s'agissant des violences conjugales, qu'une femme sur dix est victime de violences conjugales. Et pour la commission de l'Église, Jean-Marc Sauvé a fait réaliser une grande enquête en population générale qui est venue confirmer ce que nous savions déjà, que une personne sur dix dans la population française a été victime de violences sexuelles dans son enfance.
Ça fait des chiffres énormes.
Ce sont des chiffres absolument considérables. Nous pouvons dire qu'au moins 160 000 enfants chaque année en France sont victimes de violences sexuelles. Ce sont des chiffres absolument considérables.
Ce sont des filles, surtout.
Ce sont des filles majoritairement, mais des garçons aussi. Les agresseurs s'attaquent aux enfants qui sont des personnes vulnérables, des filles le plus souvent, mais aussi des garçons.
La dénonciation publique de l'inceste a lieu aujourd'hui. Elle revient même périodiquement. Mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, puisque ça concerne 160 000 enfants par an?
Je dirais que progressivement, c'est sédimenté dans la conscience collective la compréhension de l'extrême gravité de ces violences sexuelles. Non seulement de leur gravité, mais de la responsabilité que nous avions à protéger nos enfants. Vous vous souvenez qu'à la fin des années 80, Eva Thomas publiait son livre « Le viol du silence » et sur un plateau de télévision comme aujourd'hui, on banalisait, on minimisait, on faisait comme si ce n'était pas grave. Et puis d'autres livres ont paru et des affaires ont choqué l'opinion publique qui a dit « il faut changer ».
Il y a eu des plaintes, il y a des plaintes. Avec quel résultat ?
Il y a des plaintes, pas assez de plaintes. Notre système doit inspirer davantage confiance aux personnes adultes qui protègent les enfants et aux enfants eux-mêmes. Aujourd'hui, nous savons que 70% des plaintes sont classées sans suite et que, toute violence sexuelle confondue, il y a à peu près 1000 condamnations par an. 160 000 enfants victimes, 70% de classement sans suite, moins de 1000 condamnations par an. Nous avons un travail colossal à faire pour lutter contre l'impunité des agresseurs.
Vous expliquez que les enfants ont toujours parlé, qu'ils parlent, mais à qui et quand?
C'est déjà très important d'avoir conscience de ça, parce que on dit ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la libération de la parole. C'est vrai, nous pouvons appeler ce mouvement la libération de la parole, à condition d'avoir présent à l'esprit que les enfants ont toujours parlé, qu'ils
mais
ont toujours montré des signes et qu'ils ont besoin de parler à tout le monde, mais d'abord à des adultes en qui ils peuvent faire confiance. Vous savez, moi je suis juge des enfants depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de professionnels.
Et vous leur parlez tête à tête?
Et je leur parle.
Sans personne?
Oui, en audience, seul. Le moment de l'audience où ils sont seuls avec moi et où il faut aller chercher la révélation de la violence. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Est-ce que tu as déjà eu peur? Et toutes les personnes adultes qui ont écrit sur les violences qu'elles avaient subies dans l'enfance le disent. Ce qui m'a longtemps empêché de parler, c'est la peur de ne pas être cru.
Et comment vous repérez le jeune qui a subi, qui souffre et qui a du mal à partager son secret?
De deux manières. La première, c'est par les signes de sa souffrance, parce que les violences, et particulièrement les violences sexuelles et notamment l'inceste, causent des souffrances absolument majeures.
Et qui durent toute une vie.
Et qui durent toute la vie. Et cette souffrance se voit dans l'isolement ou au contraire l'agressivité, dans l'impossibilité de se concentrer, de jouer avec ses camarades. Ça, c'est le repérage par les signes, la souffrance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le repérage systématique. Ouvrir des espaces, particulièrement à l'école, où on va parler de la violence, de la maison.
Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a une gamine de 14 ans qui s'est pendue, Dina, à Mulhouse, parce qu'elle parlait à personne, ou peut-être à ses parents, mais sans effet. Le lieu de l'inceste, c'est la maison, c'est la famille.
Le lieu de l'inceste, c'est la maison, c'est la famille. Vous savez, l'une des plus grandes et des plus graves inégalités entre les êtres humains, c'est celle qui sépare les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de sécurité et celles qui vivent dans une maison qui est un lieu de danger et de confrontation à la mort. Je vais rentrer chez moi tout à l'heure dans ma maison où je suis en sécurité. Nous devons garantir que chaque personne, et quel que soit son âge, peut rentrer dans une maison de sécurité. On ne peut pas se construire.
Oui, mais comment faire quand le père qui est celui qui doit protéger est le premier violeur?
Oui, c'est très important d'arriver à comprendre que ce travail sur la lutte contre les violences, que j'appelle les violences de l'intime, les violences de la maison, est aux frontières des grandes libertés individuelles et de l'ordre public. Pour ça, je le redis, il faut aller chercher la révélation de la violence. Il faut croire l'enfant qui révèle des violences et le protéger immédiatement, parce qu'un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas protégé perd confiance dans le monde des
adultes. Il faut dire que ça concerne tous les milieux sociaux, les riches comme les pauvres, les quartiers chics de Paris comme la campagne, des villages ou des grandes villes. Mais la famille élargie. Mais d'abord, qui est concerné?
Tous les enfants pour victimes, et s'agissant des agresseurs, pour l'inceste, le père, beau-père, grand-père, oncle, frère, cousin. Vous savez, ce qui est très important d'avoir présent à l'esprit, c'est ça, c'est-à-dire l'asymétrie, le pouvoir, la violence, y compris quand elle passe par le sexuel, est toujours un instrument pour obtenir le pouvoir sur l'autre et en faire sa chose.
Mais elle passe toujours par le sexuel, par l'acte sexué.
Oui, la violence sexuelle, bien sûr, c'est toujours une atteinte à l'intégrité de l'autre pour le réduire à un objet pour obtenir une jouissance sexuelle.
Édouard Durand, vous avez sans doute entendu un parent un jour en colère vous clamer « ces actes ne regardent personne ». Je suis chez moi, dans un lieu qui est privé, à la maison. Ça ne vous regarde pas?
Or, ça nous regarde, parce que c'est la loi. La loi n'est pas neutre. La loi dit la protection et la loi réprime la transgression. Et on ne transgresse pas la loi impunément.
Mais vous avez la réputation de ne pas être neutre et de ne pas être impartial. Vous le reconnaissez?
Vous savez, je dis souvent, la neutralité, c'est une bonne planque. La loi ne l'est pas. Nous ne devons pas l'être. Nous devons être du côté de la loi. Nous ne pouvons pas nous réfugier derrière une interprétation confortable des principes. Parfois, nous avons tendance à interpréter nos principes fondamentaux de sorte qu'ils font écran entre le réel et l'application de la loi. Nous devons les mettre en œuvre d'une façon qui soit davantage protectrice. Ces enfants existent, 160 000, ils existent. Et nous devons aller les chercher pour les protéger.
Et vous dites, il y a le loup et l'agneau, et on ne s'abstient pas. Votre métier, votre vocation, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est juge des enfants. Et on m'a confié que vous n'hésitez jamais à mettre des mineurs, même des enfants, en prison.
Oui, parce que c'est la loi. Il ne faut banaliser aucune transgression, y compris quand elle est commise par un enfant. Mais il faut aussi rappeler que si l'enfant doit être sanctionné, parfois très sévèrement, parce qu'il a transgressé la loi et porté atteinte à l'intégrité d'autrui, il faut réprimer sévèrement les violences qu'il a subies dans la maison, dans son enfance.
On va encore plus loin. Parfois, c'est toute une vie avec des maladies, des douleurs physiques non identifiées qui vont se manifester et qui coûte cher à la collectivité.
Oui, c'est très important, monsieur, de le dire de cette façon-là. Vous savez, à la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, depuis le 23 janvier, le jour où le président de la République nous désignait pour la présider, nous avons reçu des personnes de tous âges, parfois très âgées, qui sont venues nous décrire le présent perpétuel de la souffrance, le dos, des douleurs gynécologiques, une attaque de la vie affective et sexuelle, des atteintes psychiques, ce qu'on appelle le psychotrauma, ce qui fait qu'il ne s'agit pas d'un mauvais souvenir, mais d'une souffrance toujours contemporaine.
Et d'un souvenir qui reste. Alors vous êtes en train de tourner dans les villes, vous étiez à Nantes la semaine dernière, vous allez à Amiens, à Bordeaux, avec des témoignages qui sont publics, et les gens se racontent. Ils arrivent à se libérer, même s'ils pleurent devant vous, ils arrivent à se libérer et
oui,
à le dire.
Oui, nous avons vécu à Nantes, il y a quelques jours, un moment magnifique parce que nous avons présenté la commission quelques minutes et puis nous avons donné la parole. Une première femme a pris le micro, c'était difficile pour elle, mais elle a été encouragée par toutes les autres personnes qui étaient présentes. Et puis, elle a dit les violences qu'elle a subies, à la fois les souffrances qui lui sont infligés, et son espoir, sa volonté, son exigence que la société change. Et pendant 2 heures, le micro a passé de main en main, dans une grande solidarité. Ce qui est très fort dans la période que nous vivons, c'est la grande solidarité entre les personnes qui ont été victimes de violences dans leur enfance.
Il y a 100 avocats conduits par maître Karen Nomlinski qui se plaignent du comportement jusqu'ici des gendarmes et des policiers dans les commissariats. Ils sont à la fois sceptiques, sarcastiques et macho. Est-ce que ça peut changer? Ça va changer, je pense.
Oui, ça doit changer. Oui. Il faut que chaque corps professionnel, quel qu'il soit, et particulièrement les institutions de protection, la police, la justice, le soin, soit davantage formé et spécialisé à la prise en compte des violences infligées aux êtres humains.
Le président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, vous a confié 400 millions pour une mission de 2 ans. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre 2 ans quand vous dites que c'est 160 000 par an, ce qui ferait 320 000 blessés, perturbés pour toute une vie? Mercredi, vous allez prononcer le premier avis de la commission. Il sera précis, ferme, avec des pistes de décision.
Oui. Merci de me donner l'occasion d'en parler, cher monsieur. Une commission doit rendre ses conclusions au terme de son mandat. Pour nous, c'est dans 2 ans.
Mais
la protection des enfants n'attend pas. À chaque fois que nous serons en mesure de faire de préconisations, nous les ferons dès la semaine prochaine parce que depuis le 23 janvier, nous sommes saisis très massivement et jusqu'à l'appel à témoignages de façon quasiment exclusive.
Oui, et qui monte. Et les témoignages montent. Vous avez dit 4 200, 5
000
ce jour en quelques mois.
En 4 semaines, près de 5 000 témoignages. Mais des mères nous écrivent pour nous dire « Mon enfant, en rentrant de week-end, m'a révélé que son père l'avait violé. J'ai appelé la police, j'ai appelé la justice.
Et alors ?
On m'a dit que je mentais. » Nous disons que cette situation doit changer. Ce sera notre premier avis qui sera publié mercredi avec des recommandations très claires.
Mais est-ce que, par exemple, vous pouvez obtenir qu'un père marié ou divorcé et qui viole son enfant perde d'un coup ses droits ?
C'est l'une des pistes que nous allons explorer, que nous allons formuler extrêmement clairement. Y a-t-il plus grave transgression de l'autorité parentale que de violer son enfant?
Et donc à partir de là, celui qui viole?
Nous devons aller dans ce sens. Et si l'on nous oppose des principes, c'est que nous les interprétons mal.
Parce que souvent, la femme qui se plaint, l'épouse qui se plaint, il lui arrive plutôt des misères. Elle est en garde à vue ou elle est mise en examen?
Oui, elle est confrontée à un choix qui est un choix extrêmement difficile, cornélien. Est-ce que je protège mon enfant? Est-ce que je me mets en danger si je ne respecte pas le droit de visite et d'hébergement du père dont l'enfant me dit qu'il est un agresseur?
Donc la justice doit être encore plus sévère, plus rapide et plus sévère.
Oui, il faut renforcer ce que Ernestine Ronet appelle la culture de la protection. Nous devons faire passer avant tout le principe de la protection des enfants.
Ce sont devenus des questions de société, des questions politiques. Ces sujets douloureux, est-ce que vous souhaitez, Édouard Durand, qu'il soit abordé pendant la campagne de 2022, les élections présidentielles, sachant qu'il s'agit ni de droite, ni de gauche en l'occurrence?
Bien sûr, il s'agit de nos enfants et de la façon dont nous pensons comme groupe humain. Nous constatons par ce mouvement de très grande ampleur une vague qui était souterraine et qui émerge, qu'il y a une aspiration très forte à renforcer cette culture de la protection. C'est aussi un enjeu politique, bien sûr.
Je fais le pari que nous vous reverrons régulièrement. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'être venu.
Merci Jean-Pierre Elkabbach. Merci à vous Édouard Durand pour cette parole très forte. On vous retrouve Jean-Pierre dans Repères sur CNews à 17h avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette matinale week-end. À la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien de votre dimanche et de vos vacances si vous en avez.